Chapitre 3. Premier interrogatoire. Est-ce que Monsieur Pierre Nervray est chez lui ? Demanda Hector Mancel à la femme de chambre qui venait de lui ouvrir.
Oui, monsieur.
Voulez-vous lui dire que j'ai à lui parler ?
De la part de qui ?
Cela n'a pas d'importance. Vous direz à Monsieur Nervray qu'il s'agit d'une affaire de la plus haute gravité. L'inspecteur fut introduit dans un bureau. Quelques instants après, Pierre Nervray l'y rejoignait.
« Je viens vous apprendre, monsieur, une bien triste nouvelle. Mademoiselle Suzy Pommier a été assassinée cette nuit. »«
Suzy ?»«
Oui, monsieur. »«
Qui êtes-vous ?»«
Inspecteur Hector Mancel, » répondit le policier pour que sa parole ne fût pas mise en doute.
« Qu'est-ce que vous dites ?»
L'inspecteur ne répondit pas. Profitant du désarroi dans lequel cette nouvelle avait plongé son interlocuteur, il examinait avec attention, sans perdre la moindre de ses réactions. Pierre Nervray avait pâli. Pourtant, la nouvelle tragique n'avait pas encore pénétré dans le fond de son être.
« Qu'est-ce que vous dites ? » répéta-t-il machinalement.
« Soyez courageux, il faut vous ressaisir afin de faciliter la tâche de la justice. »
« Mais je ne comprends pas. »
C'est pourtant très simple. Cette fois, Pierre Nervray comprit ce qui s'était passé. Mille tremblements animèrent son visage jusque-là figé. Un instant, il parut perdre connaissance. Malgré l'appui du visiteur, il tituba. Ses genoux fléchirent. Une brusque poussée le fit se reprendre. Il leva la tête comme pour implorer le ciel, il tendit les bras dans un geste instinctif de défense, puis il se mit à geindre.
« Non, non, ce n'est pas possible. Où es-tu, ma chérie ? Viens près de moi, viens me dire que ce n'est pas vrai. Je voudrais te voir, te parler, t'embrasser. »
Tout le temps que dura cette scène pénible, Hector Mancel n'avait pas quitté le malheureux des yeux. De temps en temps, par une parole affectueuse, il tentait de le consoler, mais en vain. Pierre s'était mis à gesticuler comme un dément. Parfois, il portait une main à son front, non pas comme un savant, mais à la manière d'un fou qui voudrait se blesser, s'arracher la peau avec ses ongles. Tout à coup, comme si une balle l'avait frappé en pleine crise d'hystérie, tout son être se contracta et, durant quelques secondes, il demeura immobile ainsi qu'une statue. Il ne semblait plus appartenir à ce monde. Son regard avait une fixité étrange et ses mains, qu'un instant auparavant il tordait de désespoir, détendues et molles, ne paraissaient plus lui appartenir.
« Cela ne va pas être commode d'en tirer quelque chose, » pensa Hector Mancel.
« Écoutez-moi, » dit ce dernier, « vous vous abandonnerez ensuite à votre désespoir. »«
Elle est donc morte ?» demanda Pierre, le visage subitement rasséréné.
« Je vous l'ai déjà dit. »
Cette fois, il ne put se contenir davantage et il éclata en sanglots. Toujours très fraternel, Mancel prit le malheureux par les épaules, le serra contre lui affectueusement.
« Calmez-vous, je vous prie, calmez-vous. Si vous voulez que celle que vous aimiez tant soit vengée, il faut que vous m'aidiez. »«
Celle que j'aimais tant !» répéta Pierre sur le ton d'une litanie.
Hector Mancel regarda sa montre. Il y avait plus d'un quart d'heure qu'il avait quitté les lieux du crime. Non, vraiment, il ne pouvait pas perdre son temps.
« Quand l'avez-vous quitté pour la dernière fois ? » demanda-t-il sur un tel ton que Pierre Nervray parut un instant oublier sa douleur.
« C'est elle qui m'a quitté hier soir, 5 minutes peut-être avant la fin du film, de cet horrible film. Mais comment a-t-elle été assassinée ? J'ignore tout, moi. Et par qui ? Enfin, dites-moi tout ce que vous savez. »
« Elle a été tuée chez elle, dans sa baignoire. »«
Dans sa baignoire ? » ?»«
Oui. »
Pierre ne put en entendre davantage. Il fit un pas, un autre plus court. Une seconde, il donna l'impression qu'il allait tomber en avant. Mais il n'en fut rien. Comme une masse, il tomba en arrière. 2 ou 3 secondes s'écoulèrent sans qu'il prononçât le moindre mot. Puis il se mit à gémir. Mancel ne put s'empêcher de faire la grimace. Avant de tirer quoi que ce fût de Pierre, il allait falloir perdre un temps précieux.
« De 2 choses l'une, » pensa l'inspecteur, « ou il est sincère, ou il joue la comédie pour gagner du temps. S'il est sincère, cela prouve que c'est un brave homme, sensible, plein de cœur. S'il joue la comédie,
Cela prouve que c'est une bien habile fripouille. »
Le policier demeura un instant immobile, puis il fit quelques pas sur le côté, de manière à se rapprocher de la console sur laquelle traînait une lettre. Il la prit dans sa main droite, baissa la tête comme pour la lire, mais il n'en fit rien. Les yeux levés, il observait dans une glace le visage de Pierre Nervray. Ce dernier, tout en continuant à geindre et ne se sachant pas observer, ne quittait pas l'inspecteur des yeux. Mais tout à coup, son regard rencontra dans la glace celui d'Hector Mancel. Alors, sans perdre une seconde de son sang-froid, il se remit à grimacer et à gémir. L'inspecteur eut un sourire. Il posa la lettre, s'approcha de Pierre, le souleva, l'assit dans un fauteuil. Puis, avisant sur le bureau un timbre, il sonna. Un valet de chambre parut aussitôt. « Monsieur n'a donc pas de famille ?» dit l'inspecteur en désignant Pierre. « Personne ne peut venir. »«
Il y a madame. »«
Dites à madame de venir. »«
Bien, monsieur. »
Peu après, madame Nervray paraissait. C'était une grande et belle femme, au regard extraordinairement doux. À la vue de son mari défaillant, elle poussa un cri.
« Qui êtes-vous, monsieur ? »
dit-elle en fixant l'inspecteur d'un air soupçonneux. À ce moment, Pierre entr'ouvrit les yeux. En apercevant sa femme, il se redressa brusquement.
« Ce n'est rien, rien, un petit vertige. Laissez-moi, Juliette, nous parlons affaires. »
Dès que sa femme eut disparu, Pierre s'avança à grandes enjambées vers le policier et, lui prenant les mains, demanda
« Est-ce possible ? Est-ce vrai ? Suzy a été assassinée dans son bain ? Vous ne trouvez pas cela extraordinaire ? Enfin, réfléchissez, quelle coïncidence !
Qu'est-ce que vous voulez dire par « quelle coïncidence ?»«
Rien !» répondit Pierre Nervray en changeant de ton.
« En effet, vous avez raison. Pour une coïncidence, c'est une coïncidence. »«
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »
« Vous comprendrez plus tard. Pour le moment, je vous demanderai de répondre à mes questions avec plus de bonne volonté. Expliquez-vous sur ce que vous entendez par « quelle coïncidence ?»«
Eh bien, dans le film qui a été si mal accueilli hier soir, dans ce film, elle jouait le rôle d'une femme assassinée, elle aussi, dans son bain. »
Hector Mancel ne répondit pas, mais un sourire erra sur son visage.
« Vous dites ?» demanda l'inspecteur. Que Suzy Pommier jouait le rôle d'une femme assassinée dans son bain ?
Oui.
Par qui ?
Par un riche industriel.
Ce n'est pas cela que je vous demande. Quel est l'homme qui joue le rôle de l'assassin ?
Un acteur du nom de Harry-Paul Donna.
Vous le connaissez ?
Oui.
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?
Hier soir, il était à la représentation.
Suzy Pommier était votre maîtresse, n'est-ce pas ?
Elle l'était et j'en suis fier.
Il n'est pas question de fierté. Elle était votre maîtresse. Votre femme est bien la personne que je viens d'entrevoir.
Oui, monsieur, mais c'est un interrogatoire.
Votre femme était donc au courant?
Oui.
Et elle admettait cette situation?
Nous avons un enfant.
Par conséquent, il a dû vous arriver souvent de coucher rue de l'université.
Souvent.
Comment se fait-il qu'à l'issue d'une soirée particulièrement fertile en incidents, une de ces soirées où les femmes n'aiment pas être seules, comment se fait-il que vous n'ayez pas passé la nuit avec mademoiselle Pommier ?
Je devais la passer. Nous avions rendez-vous à minuit chez elle.
Elle ne vous a pas dit en vous quittant, peu avant la fin du film, où elle allait ?
Elle m'a simplement dit qu'elle avait un rendez-vous avec le représentant d'une firme allemande.
Ce représentant ne se trouvait donc pas à la représentation. S'il était désireux de faire engager mademoiselle Pommier à l'étranger, il n'avait que plus de raison de la voir dans son dernier film.
C'est en effet ce qu'il aurait dû faire.
Donc vous avez laissé partir votre amie sans vous inquiéter davantage du lieu où elle se rendait.
Suzy connaissait beaucoup de monde. Si j'avais dû commencer à m'inquiéter...
Vous dites que vous êtes allé à minuit rue de l'université.
Je me suis d'abord rendu chez moi pour me changer.
Vous étiez en smoking ?
Oui, je croyais que peut-être Suzy désirerait souper quelque part.
Je me suis changé puisque je comptais passer la nuit rue de l'université et que je voulais aller le lendemain directement à mon bureau. Et après ?
J'ai arrêté ma voiture devant le numéro 17 de la rue de l'Université. J'ai sonné, personne ne m'a répondu.
Il était minuit ?
Minuit, exactement.
Vous étiez en costume de ville ?
Oui.
Plusieurs fois ?
Trois ou quatre fois. Je ne m'expliquais pas pourquoi elle ne me répondait pas.
C'était pourtant naturel. Il était minuit. Si elle s'était rendue à un rendez-vous à 11h30, elle pouvait très bien ne pas être de retour.
En effet.
Et alors, qu'avez-vous fait ?
Alors ?
Il faut que je vous fasse un aveu. J'ai été pris de soupçon.
Puisque Suzy n'est pas encore rentrée, c'est parce qu'elle est avec un amant.
Dans mon esprit, cet amant ne pouvait être qu'Harry-Paul Donna.
Pourquoi ?
Elle n'avait aucune raison, sans cela, d'insister comme elle l'a fait pour qu'il joue avec elle dans les deux mondes. Depuis un mois, d'autre part, elle me parlait continuellement de lui. Dans ses derniers jours, sous prétexte que son sort artistique était lié au sien, elle l'invitait chez elle presque tous les jours. J'ai donc été me poster à une cinquantaine de mètres de sa maison, rue Gérando, à Barbès. J'étais convaincue que Suzy allait sortir de chez lui d'un instant à l'autre.
Continuez.
Au bout d'une demi-heure d'attente, quelle ne fut pas ma surprise de voir, non pas Suzy, mais Donna lui-même. Il s'était changé également. Je démarrai aussitôt, car il venait dans ma direction. Puis, lorsque sur le boulevard Barbès, je stoppai après avoir contourné un refuge pour lui faire face, je m'aperçus qu'il avait disparu. Je regardai l'heure à ma montre. Il était 1h20. J'étais de plus en plus nerveux.
Pourquoi ? D'après ce que j'ai compris, votre amie avait une existence assez indépendante.
Elle sortait beaucoup. À la suite de cette représentation dont elle avait été le point de mire, il était naturel qu'elle eût rencontré ses amis ou qu'elle eût été entraînée dans quelques boîtes de nuit.
Évidemment, en réfléchissant, je me rends compte que je n'avais aucune raison d'être inquiet.
Mais c'était plus fort que moi.
Qu'avez-vous fait ensuite ?
J'ai pris une consommation dans un café de la place Clichy.
Avez-vous le souvenir de la table que vous occupiez ?
Non, je ne m'en souviens pas.
Dommage. Continuez.
Je suis resté une demi-heure dans ce café.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu l'idée de retourner rue de l'Université ?
J'en avais le désir et je luttais encore.
Pourquoi ?
Parce que je savais que s'il y avait une chose qui déplaisait par-dessus tout à Suzy, c'était que je vienne chez elle au milieu de la nuit.
Pourtant, vous aviez une excuse. Elle aurait compris, puisqu'elle n'avait pas été fidèle à sa parole, que vous veniez la relancer.
Elle ne l'aurait pas compris. Je craignais, comprenez-vous, et de la mettre en colère, et de la surprendre.
C'est ce que vous cherchiez.
Ne le croyez pas. Même si elle était sortie de chez Donna, je n'aurais rien dit.
J'aurais su, cela m'aurait suffi.
Si je comprends bien, vous n'êtes pas retourné rue de l'Université. Vous m'avouerez que c'est assez invraisemblable.
Pardon, vous ne m'avez pas laissé finir. Je suis retourné rue de l'Université.
Et c'est ici que se place un événement dont la gravité ne m'échappe pas.
Au moment où j'arrêtais ma voiture devant la maison de Suzy, j'ai entendu une voix demander le cordon et j'ai reconnu celle de Donna.
Alors ?
Alors j'ai immédiatement démarré, mais à faible allure, de manière à voir en me retournant qui sortait de l'immeuble. C'est à ce moment que j'ai vu Donna.
Ce que vous me dites là est très intéressant, mais il s'agirait de savoir dans quelle mesure c'est exact. Car vous m'avouerez que votre attitude au cours de cette nuit est assez étrange. Vous niez être entré chez Mademoiselle Paumier, et pourtant, à deux reprises différentes, vous vous êtes trouvé devant sa porte. Cela pourrait encore s'expliquer, mais ce qui est singulier, c'est que vous voyez sortir Donna de chez lui, que vous alliez dans un café et que, trois quarts d'heure après, vous voyez ce même Donna sortir cette fois de chez votre maîtresse. J'appelle cela des coïncidences curieuses, n'est-ce pas ?
Peut-être, mais...
Et ce qui me semble le plus bizarre, c'est que, comme par hasard, vous avez éprouvé l'envie de boire un bock place Clichy, sans doute pour permettre à Donna d'accomplir son forfait. Vous auriez voulu accabler ce pauvre garçon, je ne vois pas comment vous auriez pu vous y prendre mieux.
Je n'ai fait que dire la vérité, je suis prêt à la redire devant Donna lui-même.
Nous verrons plus tard, pour le moment c'est inutile.
Voulez-vous, je vous prie, prendre ce papier ? »
En disant ces mots, Hector Mancel tira de son portefeuille un carré de papier. Pierre Nervray obéit, non sans constater avec étonnement que le papier était blanc.
« Pourquoi ? » demanda-t-il.
« Ne vous inquiétez pas, rendez-moi ce papier. »
L'inspecteur le plia soigneusement, le remit dans son portefeuille.
« Maintenant, dit-il, je vous prierai, si vous sortez, de dire à vos domestiques où vous êtes, de manière que, si j'ai besoin de vous atteindre, je puisse le faire facilement. »
« Eh bien, tu as été long, » dit Tabouret à Mancel lorsque celui-ci parut.
« As-tu des renseignements ?»«
J'ai interrogé la concierge. M. Nervray est rentré une première fois à 11 heures. Il est ressorti un peu avant minuit. »«
Et à quelle heure est-il entré de nouveau ?»«
Au milieu de la nuit, mais on n'a pas pu me dire l'heure. »«
C'est tout ?»«
Oui. »«
Bien, alors filons. »«
Où allons-nous ?»
Rue Gérando, et tu recommenceras le même manège.